France Culture.
Les titres de l'actualité de ce jeudi, c'est avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Marie, nous serons dès le début du journal au procès à Paris des CRS soupçonnés d'avoir matraqué des gilets jaunes alors qu'ils n'opposaient pas de résistance, soit l'une des premières affaires jugées visant des violences policières durant ce mouvement de mobilisation 7 ans après les faits. On parlera élections municipales, on détaillera la nouvelle politique énergétique pour la France, à suivre également une nouvelle réunion des dirigeants de l'UE aujourd'hui pour discuter compétitivité du vieux continent. Enfin, avec notre invité, on se demandera si les sanctions sont un instrument de politique étrangère encore efficace.
Merci Thomas Cluzel, on vous retrouve à 12h30 pour le journal de la rédaction.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Pour son 10e long-métrage, il s'attaque à son tour à la figure désormais mythique du commissaire Maigret. Le cinéaste Pascal Bonitzer sera mon invité à partir de 13h. Et pour commencer ces midis, la séquence critique quotidienne avec deux expositions aujourd'hui. L'une consacrée au maître du paradoxe visuel, M.C. Escher, à la Monnaie de Paris. Et l'autre au manga et à son histoire, c'est au musée Guimet, à Paris également. Vous écoutez les midis de culture, un chemin qui chemine. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Sarah Hilar-Meyer, critique d'art et commissaire d'exposition indépendante. Bonjour.
Bonjour Marie.
Joseph Gosse, le directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Sadi de Gorter, je vous ai demandé d'être notre guide pour pénétrer dans le monde magique d'Escher. Et devant ces deux mains qui se dessinent mutuellement, j'ai envie de dire que Escher crée des illusions et des illusions à l'intérieur des illusions, comme s'il voulait créer, lui, un monde totalement plein. Est-ce qu'il avait peur du vide ?
Et on commence avec une exposition qui vous fait perdre le nord, la rétrospective de la Monnaie de Paris consacrée à Escher, Maurits Cornelis Escher plus exactement, l'artiste néerlandais mort en 1972, et sans doute le graveur le plus populaire qui soit. Son escalier qui ne mène nulle part et dont les volets de marche se répondent a été repris dans le design, le cinéma, la bande dessinée, le dessin animé. Et c'est pourtant la première fois qu'une exposition aussi complète est proposée en France. 170 œuvres sont présentées ici, de ses débuts figuratifs à la lisière du surréalisme et du fantastique, à ses travaux sur la géométrie et les illusions d'optique. L'exposition montre aussi comment l'architecture, en particulier romaine, l'a inspiré et comment le mouvement hippie s'est emparé de la partie plus psychédélique de son œuvre. On commence avec quelques mots d'abord, Joseph Gosse.
Je reprendrai votre expression tout à l'heure, un chemin qui chemine. C'est exactement ça que j'ai cru vivre dans cette exposition vraiment très riche, très vaste. On chemine depuis des choses qui m'ont donné l'impression d'être dans une fin de siècle, de quelque chose d'assez décadent au départ, pour arriver à la publicité des années 60, 70 et des pochettes de disques. Donc j'ai l'impression d'être passé par plusieurs mondes et d'avoir aussi de m'être aussi confronté à ma nullité en mathématiques.
Ah, la nullité en mathématiques. Sarah Hilar-Meyer.
C'est une exposition que j'ai beaucoup aimée et qui, en fait, qui permet, moi, m'a permis en tout cas de redécouvrir un artiste qui est quasiment absent, en fait, des musées européens, qui, soit parce qu'il serait considéré comme trop intellectuel, soit au contraire comme, considéré comme trop populaire, avec un art dont les pièges optiques seraient de l'ordre de l'astuce sans profondeur. Mmh. Or, c'est vrai que ce qu'on découvre dans cette exposition, c'est certes un artiste qui est extrêmement singulier et inclassable, mais surtout un artiste dont le travail est d'une richesse, je trouve, incroyable et d'une intelligence folle quant au système de vision et de représentation du monde qu'il retourne contre eux-mêmes pour nous dérouter.
Alors Joseph Gosse, on n'a pas besoin d'être bon en mathématiques
absolument
pour apprécier
pas
l'exposition.
Pas du tout. Je disais ça peut-être pour signer le fait que c'est une exposition qui effectivement nous fait beaucoup réagir sur notre façon de regarder, puisqu'elle effectivement elle traverse toute son œuvre. Elle parle beaucoup aussi de technique, puisqu'on est aussi, c'est une exposition, faut le signer, qui est à la Monnaie de Paris, c'est-à-dire elle est aussi là parce que c'est un art de la gravure, donc il y a un écho avec la gravure des billets, etc., qu'on voit d'ailleurs à certains moments. Mais en tout cas, elle donne envie de regarder plus précisément comment les choses sont faites et comment elles sont faites techniquement, mais aussi comment elles sont imaginées par cet artiste-là. Et tout son travail consiste et s'amplifie de cette façon-là à travers les années, consiste à retourner le réel, à retourner le monde et à regarder le monde d'une façon qu'on pourrait regarder si on l'apercevait sur une feuille plane et si on commençait à mettre les reliefs de façon plane. C'est un peu ce qui m'a frappé, c'est cette façon très moderne finalement qu'a cette exposition de montrer ces choses-là. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à cette question qu'on soulève pas mal de ces derniers temps sur l'existence d'une quatrième dimension, d'une cinquième dimension, d'une autre dimension en tout cas. Donc ça confronte beaucoup à ça. On n'a pas besoin d'être très bon en mathématiques, même si lui utilise les mathématiques et qu'il y a des moments, effectivement, où vous regardez les choses et vous avez des grandes explications pour vous dire ça a été composé comme ça, avec des suites de nombres, etc. Moi, je m'y perds assez vite, mais ce n'est pas très grave parce que l'expérience en tant que telle, elle est assez éblouissante. Mmh. Et par ailleurs, il y a autre chose dans cette exposition qui m'a aussi assez intéressé, c'est le côté extrêmement ludique. Il y a dans l'exposition des moments comme ça, des cabines, des lieux qui activent un peu la dynamique du visiteur ou de la visiteuse, et qui les plonge dans ces effets de miroir qui font en fait qui sont très très présents chez lui dans ce qu'on voit. Mais donc on est un peu emmené à faire partie de ce monde-là et à voir un peu comment ce monde-là peut aussi être imaginé et pensé. C'est un aspect ludique qui n'est pas essentiel, mais qui en tout cas est assez présent et qui m'a assez touché et qui fait aussi sans doute que l'exposition est très populaire. Moi, quand j'y étais, c'était bondé de monde. Et c'était assez, comment dire, rassurant de voir ça.
Sarah Hilaire-Meyer, vous disiez qu'on peut pas le réduire à une astuce, à une sorte de malice.
Oui, non, c'est en fait une pratique très réflexive et je trouve intelligente sur les systèmes de représentation justement. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment ils retournent, en particulier la représentation réaliste, naturaliste, enfin contre elle-même. C'est-à-dire que là où originellement la perspective telle qu'elle est instituée à la Renaissance, elle permet de construire un espace homogène, cohérent, maîtrisable et mesurable. Lui, au contraire, il l'utilise de manière à construire donc des espaces impossibles, paradoxaux, dont on n'arrive jamais véritablement à se saisir, avec des architectures qui vont se dilater, se contracter, passer du convexe au concave, avec aussi les escaliers qui semblent à la fois monter et descendre à l'infini, ou un bassin dont l'eau semble en fait couler vers le haut avant de redescendre en activant un moulin dans un cycle parfaitement clos. Donc ça, ce sont pour ses œuvres les plus célèbres, mais il y a beaucoup d'œuvres qu'on ne connaît pas, ou moins, comme par exemple une œuvre qui s'appelle Galerie d'estampes, où on voit un visiteur dans une galerie d'art en train d'observer une œuvre qui, à son tour, donc représente une galerie dans laquelle ce visiteur se trouve, et ça, ainsi de suite, à l'infini, dans un tourbillon qui va jusqu'au centre du dessin. Alors, ça tient à des formules mathématiques que je n'arriverai pas à expliquer. Donc en fait, en tout cas, ce qu'on voit, ce sont des distorsions de perspective et des artifices visuels qui traduisent formellement en fait effectivement des formules mathématiques et géométriques en réalité très complexes, mais qu'il utilise de manière empirique et intuitive. C'est ça qui est assez fascinant, comme par exemple la figure de Necker, le triangle de Penrose, ou le triangle de Penrose. Alors pareil, je n'expliquerai pas.
Un petit peu.
Ah non, je les connais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des figures géométriques, mathématiques, qui ne répondent pas à l'espace euclidien ou cartésien tel qu'on le connaît avec ses lois physiques. Ce qui revient à dire qu'en fait, Escher utilise des principes rationnels de manière paradoxale, c'est-à-dire de manière à dérouter en fait nos facultés intellectuelles et perceptives pour nous faire basculer, comme le disait un peu Joseph, du côté peut-être de la relativité d'Einstein. D'ailleurs, il y a une œuvre qui s'appelle Relativité, voire peut-être de la physique quantique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous fait basculer du côté, je trouve, d'une logique du rêve, mais d'un rêve qui serait de nature cauchemardesque.
Oui, voilà, c'est un cauchemar.
Voilà, mais ce qui est moins le cas dans des tessellas, dans d'autres œuvres sur lesquelles j'aimerais après revenir.
On va y revenir, oui, Joseph Gosse.
Il y a effectivement, dès le départ, moi j'étais frappé par le côté un peu macabre de certaines gravures, notamment on en voit une qui est une perspective dans une crypte, je crois, et on voit des gens comme ça qui défilent, qui sont tous en tenue comme ça, on dirait le Ku Klux Klan. Il y a quelque chose d'assez macabre. Même cette image, c'est qu'on a beaucoup vu circuler, qui est l'image de l'église engloutie à moitié dans l'eau et qui se reflète. On est dans un imaginaire vraiment décadent de fin de siècle. On est presque aussi chez Lovecraft. Il y a quelque chose d'assez lugubre.
Il était intéressé par le spiritisme.
Absolument. Hein. On est vraiment dans ces manières-là. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement poétique. L'œuvre, on parlait Sarah tout à l'heure sur ce tourbillon visuel du spectateur qui regarde l'œuvre, qui le regarde, etc. Lui, quand il l'a fait, il laisse au centre un blanc. parce qu'il ne sait pas, il ne veut pas aller plus loin ou ne sait pas aller plus loin, comme s'il laissait à la personne qui regarde un centre, un trou en fait, un quelque chose qui vous permet d'imaginer, de continuer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition montre que d'autres ont continué de façon mathématique l'œuvre, et sauf que quand vous regardez les deux, vous dites ah bah oui, mais en fait. Le blanc, finalement, cette absence, elle dit quelque chose. Elle dit vraiment la poésie. Elle dit la place de celui qui regarde et qui est obligé, finalement, de se plonger. Et c'est ça, aussi qui est assez passionnant. Et je trouve ça, ce qui m'a frappé, c'est le côté extrêmement, ouais, poétique et aussi extrêmement immergé dans la nature. On voit beaucoup la nature, des paysages, des oiseaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Il y a des oiseaux qui se métamorphosent, qui passent d'un état à l'autre. On est quasiment dans quelque chose de très onirique qui m'a fait penser, par exemple, à des dessins animés où d'un coup il y a de la métamorphose possible. Et c'est ça qui est assez porteur, ce côté extrêmement ancré dans le réel. Comment on s'empare du réel? Comment on le déploie d'une façon différente? Mais avec en même temps quelque chose qui est comment est-ce que l'humain se situe là-dedans et comment est-ce que l'humain se métamorphose dans ce réel.
Sarah Hilaire-Meyer. Oui, bah en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de registres dans lesquels évolue Escher avant d'en arriver à ces constructions impossibles. Il y a notamment ces représentations de paysages et d'architecture dont vient de parler Joseph à la fin des années 1920, qui respectent, elles, en fait, la perspective, mais qui donc ne présentent pas de déformation de structure, mais s'inscrivent effectivement déjà dans une veine fantastique, effectivement assez lugubre, ésotérique. Moi, il y a un registre qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui des tessellations.
Oui.
Qui lui a été inspiré, en fait, par les mosaïques de l'Alhambra, et qui consiste, donc, la tessellation, ça consiste à, en fait, à recouvrir un plan avec une ou plusieurs figures géométriques qui peuvent potentiellement être répétées à l'infini, sans laisser jamais d'espace vide. Et là où ces tessellations, à lui, sont, je trouve, les plus folles et les plus intelligentes, justement, c'est quand des formes géométriques ou anthropomorphique plane donc en deux dimensions, et bien se métamorphose en fait en figure en trois dimensions qui peuvent être animales, minérales ou humaines, dans des cycles de métamorphose comme en parlait Joseph, infini. C'est là aussi on est dans une logique très onirique du rêve, où en fait il y a pas de principe, le principe de non-contradiction n'existe pas, une chose peut devenir une autre. C'est assez fascinant et peut-être plus reposant que ces constructions impossibles. Et il y en a une œuvre en particulier, tessellation, qui m'a intéressé, c'est Reptile. Qui représente en fait en plongée un carnet sur lequel sont dessinés sous forme de tesselles imbriquées donc des reptiles dont l'un s'émancipe en fait du plan de la feuille pour devenir un reptile en trois dimensions qui grimpe sur différents objets avant de se fondre à nouveau dans le plan de la feuille, dans une boucle infinie. Et là, ce que je trouve vertigineux, comme dans tous ces cycles en fait de métamorphose, c'est de sentir que finalement, nous, êtres humains, on est toujours pris dans des cycles de représentation. C'est-à-dire qu'on connaît peut-être jamais directement le monde, qu'on le connaît toujours qu'à travers des schémas de représentation qui peuvent être en 2D, en trois dimensions, abstraits ou figuratifs. Et que de ce point de vue, peut-être que foncièrement, le réel, eh bien, échappe à nos facultés, comme le suggèrent justement les constructions impossibles.
Mais c'est exactement ça qu'on ressent, c'est-à-dire cette perte de prise avec le réel. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que finalement, ce qu'il a aussi mis en place, ce sont des outils qui sont repris de façon très brutale presque par la publicité, et que finalement, ce qu'il provoque, ce que ces images provoquent, c'est d'un coup une sorte de sidération, quelque chose où on se pose des questions, et la publicité reprend exactement ça pour arrêter le regard et dire regardez, vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Donc il y a quelque chose chez lui de cet ordre-là, qui est vraiment de la création d'outils à partir de son imaginaire et de ses capacités techniques, mais qui se retrouve finalement perverti par la publicité, par la communication, la variante la plus noble de tout cela étant les pochettes de disques.
Les pochettes de disques
qu'on voit à la fin. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus que celles qu'on voit. Il y en a vraiment une infinité de pochettes de disques.
On peut en citer quelques-unes, ouais.
Là, comme ça.
Il y a Oz, par exemple.
Ouais, il y a.
Jagger, c'est ça, non?
Mais Jagger a demandé une illustration à Escher, mais il lui a refusé parce qu'il s'adressait à lui de manière un peu trop familière en l'appelant Cher Moritz, alors que lui, il s'appelait MC Escher.
Ouais. Non, mais il y a Il y a vraiment une influence de son travail sur la musique psychédélique des années 60, ouais. dans cette idée que la musique, tout comme ses dessins, partent d'un point, mais on ne sait jamais où ça arrive. Mmh. Et le psychédélisme, c'est vraiment ça. D'où est-ce qu'on part, mais sans savoir où on va arriver, et on peut tourner en boucle et en boucle et en boucle. Il y a évidemment l'effet de la drogue, etc. Mais il y a une vraie correspondance. Je crois qu'il y a des pochettes de Led Zeppelin aussi. Enfin, il y a beaucoup, notamment de sous-disques de psychédéliques qui l'ont repris vraiment comme une sorte d'emblème de totem. Mmh.
Sarah, un dernier mot?
Oui, mais, enfin, peut-être par rapport à ce que dit Joseph sur la culture populaire qui se réapproprie Escher. En même temps, c'est une forme de revanche, hein, parce qu'il a été complètement snobé par les musées européens, qui en fait ont hérité d'un système académique avec des catégories très rigides, justement, qu'elles ne correspondent pas à Escher. Aussi de hiérarchie entre les médiums et les genres, qui ont placé la gravure en dessous de la peinture. Et puis aussi, il y a le fait qu'au début du XXe siècle, les avant-gardes rejettent en fait la représentation réaliste, la perspective, alors que lui, justement, l'utilise, mais pour la distordre, comme d'autres l'auront fait, comme Dali, ou des artistes de la nouvelle objectivité allemande, comme Autodix, mais eux, ils sont dans les musées parce qu'ils font peut-être justement de la peinture.
MC Escher, c'est jusqu'au 1er mars à la Monnaie de Paris. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Joseph Gosne.
Alors mon coup de cœur, ce n'est pas de la musique, non, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce qu'on a écouté, c'est Sonic Youth, un morceau qui s'appelle Dirty Boots, qui vient d'un album qui s'appelle Goo, qui date de 1990, et la pochette de cet album est devenue extrêmement iconique. C'est un dessin qui représente deux personnages avec des lunettes noires, avec un texte inscrit sur la pochette, et ce dessin est de Raymond Petitbon. Et mon coup de cœur, c'est ça, c'est Raymond Petitbon, dont on peut voir 70 dessins au musée Picasso à Paris, en marge de l'exposition consacrée, la grande exposition consacrée à Philippe Guston. Je dirais presque comme une sorte de note de bas de page de Philippe Guston, parce que même l'exposition de Petitbon est plutôt en sous-sol. Mais il y a de vrais échos entre les deux. Petitbon étant un fan de Guston, et on voit les mêmes choses, c'est-à-dire une même idée de l'Amérique, une même façon de raconter l'Amérique, de la caricaturer, d'avoir un regard extrêmement ironique sur elle, sur ses figures les plus violentes, notamment le Ku Klux Klan, la religion, etc. Petitbon, c'est quelqu'un qui a commencé à la fin des années 70, début des années 80, en étant illustrateur des pochettes du groupe de son frère. Ce groupe s'appelle Black Flag. Il a été très proche de toute cette scène hardcore, de rock hardcore, qui vient au moment du punk et un peu après. Il a beaucoup œuvré dans ça. Il a produit énormément de choses, des fanzines, des flyers, des pochettes de disques, qui sont aujourd'hui extrêmement collectionnés. On les voit, on en voit une certaine partie dans l'exposition. On voit aussi ses dessins, et très vite en fait, ses dessins, à partir des années 90, lorsque Sonic Youth le prend comme ça, comme un emblème, tout comme Sonic Youth avait pris Gerhard Richter pour un album précédent, pour Daydream Nation, Petitbon devient un vrai emblème de cette culture-là, et ses dessins passent à quelque chose de... Ils passent dans un autre monde, ils passent dans le monde de l'art. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est-à-dire que son trait demeure celui d'un punk dans un musée.
Et ce musée, c'est le musée Picasso à Paris, et c'est jusqu'au 1er mars. On enchaîne avec cette exposition consacrée au manga au musée Guimet à Paris, une première pour le musée des arts asiatiques, et le sujet est vaste, l'exposition aussi, qui revient aux origines de cette bande dessinée japonaise, les rouleaux narratifs apparus il y a plus de 1300 ans, les célèbres estampes du 18e et les comics américains. On y découvre les différents genres de mangas codés, très genrés d'ailleurs justement, et puis les mangas plus commerciaux comme Naruto dont on a entendu là le générique. On commence avec quelques mots, Sarah Hilarmeyer.
C'est une exposition que je trouve bien faite, en tout cas moi, qui m'a appris des choses sur les origines du manga et aussi ses possibles précurseurs du XVIIe siècle au XIXe siècle japonais. Cela dit, j'ai des réserves pour les dernières parties de l'exposition qui se concentrent sur les plus grosses productions des années 80 à aujourd'hui, telles que justement Naruto, en les inscrivant dans un héritage culturel, mais au dépens peut-être d'un regard plus critique sur ces mêmes productions, quant à ce qu'elles reconduisent ou déplacent en termes d'imaginaire, et aussi au dépend peut-être d'auteurs moins connus de ces années-là.
Joseph Gosne.
Je ne saurais dire mieux. C'est effectivement une exposition qui est assez passionnante quand on ne connaît pas vraiment le genre, quand on a envie de le découvrir, de comprendre d'où il vient, comment il s'est situé et déroulé. C'est aussi quand on connaît un peu le genre, c'est une exposition qui, bon, d'une part permet effectivement de voir de très beaux documents, mais surtout une exposition qui questionne. Quand on connaît un peu notre façon de regarder un genre qui ne vient pas de chez nous, un genre étranger, et qui est mis sous une seule cloche. Ce terme manga, c'est comme si d'un coup on organisait au Japon une exposition qui s'appellerait bande dessinée et dans laquelle on ferait une sorte de fourre-tout. Donc il y a évidemment ces limites critiques là. Ça reste quand même quelque chose d'assez marquant.
Sarah Ilermeyer.
Oui, bah, je trouve que c'est quand même une exposition réussie sur le plan de ses ambitions. Je crois que la première, c'est d'inscrire le manga dans une profondeur de champ, c'est-à-dire dans une histoire aux ramifications qui sont en fait multiples, et aussi dans des imaginaires et dans des pratiques qu'on peut qualifier sans abus d'ancestral. C'est ce qu'on voit en fait dans la première partie de l'exposition qui est aujourd'hui fermée, et là ce qui s'appelle Avant le manga, où on découvre, en tout cas moi j'ai découvert une production très importante du XVIIe siècle au XIXe siècle de livres illustrés, notamment par Okuzai, avec des squelettes, des démons, des samouraïs qui sont pris dans des actions très très vives. On voit aussi des estampes et des emaki. Les emaki, ce sont des rouleaux illustrés où se déploient des légendes ou des satires, et qui évoquent par leur agencement d'images et de textes eh bien les mangas tels qu'on les connaît. Il faut aussi préciser que ces emaki utilisent déjà aussi les estampes des bulles, mais des bulles dans lesquelles ne se trouvent pas des paroles, mais dans lesquelles sont figurés en fait les songes et les rêveries des personnages. Donc c'est assez étonnant. Alors pour autant, il n'y a pas de filiation directe entre ces pratiques et le manga. C'est ce qu'on apprend dans les sections suivantes, puisqu'en réalité le manga se développe, moi je savais pas forcément, comme tel à partir des années 20, dans un héritage qui est lui direct à la presse illustrée anglaise, satirique, qui est introduite au Japon à la fin du 19e siècle, mais aussi dans un héritage direct avec le kamishibai. Ça veut dire théâtre de papier. Donc c'était des petits théâtres portatifs d'images qui consistent en une boîte montée sur un trépied, et dans laquelle on fait se succéder des images qu'un comédien commente en paroles et en gestes. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de mangaka qui sont passés par le kamishibai, c'est-à-dire qu'on dessinait les petites planches pour ce théâtre. Donc ça, c'est quand même assez génial, je trouve, de pouvoir le découvrir. Et je dirais que ça, c'est pour la profondeur de champ que cherche à déployer l'exposition. Mais il y a aussi une autre ambition de cette exposition, dont vous avez parlé, Marie, qui est de montrer comment le manga aussi s'institue, en fait, comme très rapidement, comme un champ d'activité spécifique, quasiment industriel, avec des publics cibles, donc les shonen pour les garçons, les shoujo pour les filles, mais aussi avec une très grande, en fait, diversité de genre et de style. Donc je dirais, de ce point de vue-là, que le manga d'ailleurs n'est pas un genre, mais un médium en fait, et on voit quand même que c'est extrêmement divers. On commence avec la ligne ronde et très dynamique de Tezuka, pour aller par exemple jusqu'au récit post-apocalyptique des années 80, tel que Akira d'Otomo, avec des angles de vue cinématographiques, des enchaînements extrêmement rapides, jusqu'à, en passant aussi quand même par le Gekija, qui est en fait un courant contre-culturel des années 60, qui propose une critique très sombre de la société japonaise, avec un style beaucoup plus réaliste et aussi une ligne peut-être plus gestuelle et moins propre que celle d'un Tezuka, par exemple. Donc, du point de vue, voilà, je trouve de la généalogie et des différents registres qui sont ceux du manga, je trouve l'exposition franchement très bien faite, mais comme je disais, cette approche, elle a aussi ses limites, en particulier pour les dernières sections, mais je pourrais y revenir après.
Joseph Coste.
Je crois que c'est une exposition qui permet déjà de découvrir quelques grands auteurs et leur importance et leur travail. Évidemment, il y a Osamu Tezuka, qui est considéré un peu, enfin, comme c'est un cliché, mais c'est un peu le Walt Disney, ou en tout cas le Hergé du Japon. Donc on voit son travail. Il y en a d'autres comme Kazuo Kamimura, que j'aime particulièrement, qui est cet auteur qui fait de la bande dessinée de sabres, de samouraïs dans les années 50. En fait, à chaque fois, ça raconte un moment du Japon, et ça raconte aussi un moment de la jeunesse du Japon. À quoi cette jeunesse-là s'intéresse? Parce que c'est un art, et on le comprend dans l'exposition, qui se développe beaucoup à travers la presse, et notamment une presse spécialisée, qui est la presse des magazines. C'est un peu l'équivalent des magazines de Spirou et Tintin chez nous. Des magazines spécialisés dans lesquels les auteurs vont placer leurs histoires, et ensuite ces histoires vont sortir en livre. comme le disait Sarah tout à l'heure, il y a un genre qui apparaît à un moment, qui est le Geekiga, qui lui est porté par un magazine très fort qui débute en 1964, on le voit dans l'exposition, qui s'appelle Garo. Et dans Garo, on commence à voir des choses s'installer qui sont de la bande dessinée plus adulte, avec des thématiques plus adultes, et qui va petit à petit intégrer des questions sociales, et notamment des questions de société à partir de la fin des années 60, les questions de 68, etc., vont un peu se retrouver dans ces bandes dessinées-là. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant, et on peut suivre ce chemin-là. On suit aussi un autre chemin qui est que dans cette industrie, dans cette approche extrêmement industrielle, c'est aussi un art de l'artisanat. Quand on regarde les documents, on voit il y a des planches originales, et ça c'est passionnant, moi ça me passionne vraiment. On voit la méticulosité, on voit aussi que ce sont des petites planches, que les dessins sont toujours assez précis, qu'il y a sans doute peu de décors, qu'il y a beaucoup de place pour les blancs, et que ça c'est fait pour être imprimé rapidement, pour que ça aille vite. Et c'est ça aussi la puissance de feu du manga, c'est que les choses doivent aller vite, on doit imprimer vite les histoires d'une semaine après l'autre.
Alors il nous reste peu de temps pour aborder ce qui vous chagrine un petit peu.
Non, mais ça rejoint un peu ce que dit Joseph, parce que finalement, comme il dit, chaque génération de manga peut-être représente, je sais pas, les préoccupations de la jeunesse de l'époque, mais après, les mangas s'adressent pas justement aux jeunes. C'est peut-être ce qui manque dans les dernières parties de l'exposition, qui en fait sont consacrées donc aux mangas dès la fin des années 80, comme je dis, jusqu'à aujourd'hui. Il faut préciser que c'est une période au cours de laquelle, en fait, le manga se massifie véritablement, devient une culture mondialisée, reconnue aussi par les pouvoirs japonais, les pouvoirs publics japonais, qui jusque-là, en fait, le déconseillent. Considérer et le maintenait dans des pratiques contre-culturelles. Donc, de ce point de vue, c'est logique que ces dernières sections montrent des mangas très populaires qui se diffusent à l'échelle internationale à ce moment-là, comme Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Ce qu'on voit, ce sont des planches en fait dessinées, des couvertures de livres de ces mangas qui sont mis en rapport avec des figures, des objets issus de la mythologie japonaise dont ces mangas s'inspirent. Alors on découvre par exemple que les 7 boules de cristal de Dragon Ball Z viennent d'un roman populaire de la fin du 19e, que les mudras de Naruto, c'est-à-dire les gestes qu'il effectue pour accomplir certaines actions magiques, viennent du bouddhisme. Donc cette inscription du manga de masse dans un imaginaire ancien est intéressante, mais c'est une approche qui est essentiellement descriptive et qui fait de l'économie d'un regard plus critique sur ces mêmes productions. Je dis ça parce que quand on pense au Geekija dont vient de parler Joseph, qui inscrivent leur récit dans le Japon médiéval pour faire la critique quand même des rapports de classe, par exemple. Alors je dis, ils n'inscrivent pas toujours dans leur récit dans le Japon médiéval, mais ça peut arriver. Je pense en particulier à Shirato Senpei. Quand on pense aussi, par exemple, à Gen aux pieds nus de Nakazawa, qui raconte l'avant et l'après Hiroshima, eh bien on se dit que les mangas tels que Dragon Ball, Naruto transmettent peut-être certaines valeurs telles que l'amitié et le courage, mais proposent peu de recul en fait sur le monde, et peut-être même reconduisent, je dirais, certains délires de toute puissance, puisque dans ces récits, il y a peut-être un bon ou un mauvais usage de la force, mais l'alpha et l'oméga, toute chose. Donc de ce point de vue, ce qu'on peut regretter, dernier mot, c'est que les commissaires d'exposition n'est pas mis en avant des auteurs peut-être plus adultes et moins connus, et aussi qui n'est pas mis l'accent sur des dimensions peut-être même plus politiques de ces mêmes productions telles que One Piece pour enfants, puisque j'ai appris que en fait le chapeau de Luffy, le personnage principal, est devenu un emblème dans des manifestations contestataires au Népal, mais ça c'est pas dit dans l'exposition.
On va s'arrêter là, où Joseph, justement, un petit mot.
Non, si j'ai un seul regret, c'est qu'il n'y a pas d'accent mis sur la production éditoriale française, qui accompagne de façon assez spectaculaire, enfin assez précise, et qui donne justement des contextes dans les livres, pour le manga. Je pense notamment aux éditions Cornelius, ou à ce que Delcourt a fait, etc.
Merci à tous les deux. Manga tout un art, c'est jusqu'au 9 mars, il reste un petit mois, au musée Guimet. Sarah Hilaire-Meyer, Joseph Gosse, merci beaucoup d'être venus dans les midis pour parler de ces expositions, ces trois expositions dont vous retrouverez évidemment les références sur la page de cette émission. Restez avec nous, on revient tout de suite.